Braca, Cornelius et sa compagne Bella Golem sortirent de leur chambre pour voir la nouvelle arrivée. Comment peindre leur étonnement réciproque? Braca ne savait quelle contenance faire. Bella Golem ne paraissait nullement émue, comme si elle était trop sûre de son affaire pour concevoir des doutes sur sa propre personne. Bella pleurait. Abattue par la fatigue et la faim, elle avait à peine la force de les regarder. Cornelius, qui se voyait tout d'un coup en possession de deux femmes, et qui ne pouvait savoir comment cela se faisait, n'en ayant réellement pris qu'une, sautait comme un pétard, courait, leur disait des injures, sans savoir au juste ce qu'il faisait. La servante et Braca, les premières, hasardèrent que la dernière arrivée pouvait bien être la vraie. Mais Cornelius leur soutint le contraire, parce que Golem, bien habillé, et lui pesait plus que Bella, vêtue des haillons d'une chanteuse ambulante. La pauvre Bella demanda quelques aliments élaborés pour la nuit, car elle tombait de fatigue, promettant de s'en aller le lendemain matin si on ne pouvait la souffrir dans cette maison. Mais Golem s'y opposa. On sait en effet qu'elle n'avait pris dans le miroir que quelques-unes des pensées de Bella, et c'était ce qui lui donnait une apparence d'éducation. Mais elle avait conservé un cœur de juive et, dans la crainte que l'étrangère n'occasionnât quelques dépenses, et surtout de la supplantât, elle s'écria « Oh, si cette fille ne quitte pas de suite et volontairement la maison, si elle continue à vouloir profiter de cette ressemblance pour m'enlever l'amour de mon mari, je lui déchirerai ce visage imposteur de mes propres ongles. » « Et toi ?» s'écria-t-elle en se tournant d'un air menaçant vers Cornelius. « Pourquoi restes-tu là et ne lui as-tu pas déjà rompu les chines ? Cela révèle ta fausseté. Oh, tu as déjà eu des rapports avec cette femme. Je vais vous casser la tête à tous deux et vous vous embrasserez ensuite tant que vous voudrez, misérable adultère !» Cornelius, fort effrayé de cette menace, jugea prudent de se montrer encore plus furieux. Il leva son bâton en s'écriant « Misérable fille, je vais te punir !» Braca eut peine à retenir un éclat de rire à l'aspect de son visage furibond. Bella, voyant tout cela, se retira lentement et sortit. Cornelius se contenta de donner quelques coups de bâton sur la porte et rentra en disant « Oh, oh, je lui ai donné quelque chose dont elle se souviendra longtemps !» Golem, pour le récompenser, l'embrassa en l'appelant son cher mari. Le pauvre Cornelius ne se doutait pas qu'il venait de chasser la vraie Bella pour garder une poupée d'argile. Car dans la nuit de noces, Bella Golem, par mégarde, lui avait écrasé ses yeux de derrière, qu'il avait conservés jusque-là. De tels accidents arrivent souvent quand on a des propriétés si particulières. Je sais un orateur qui s'animait toujours d'une manière extraordinaire et qui perdit complètement cette propriété un jour que ses auditeurs, voulant faire une expérience sur lui, lui versèrent un seau d'eau froide au moment où il était au paroxysme de son animation. Bella était maintenant décidée à chercher un refuge chez l'archiduc. Elle se rendit à son palais qu'elle connaissait et qu'on voyait de loin s'élever au-dessus des autres maisons. Son cœur battait violemment, ses jambes se dérobaient sous elle, sa langue refusait presque de la servir. Enfin, elle parvint à expliquer au portier qu'elle avait absolument besoin de parler à l'archiduc. Le portier était un vieillard, tout dévoué à Adrien, lequel, par raison hygiénique, faisait surveiller très soigneusement l'innocence de son élève. Le vieux portier fit entrer Bella dans une antichambre et alla avertir Adrien qu'il y avait là une fille suspecte qui demandait à parler à l'archiduc. Adrien venait de se mettre à table devant un bon poulet rôti dans son cabinet de travail où il avait l'habitude de souper seul. Il ordonna, d'assez mauvaise humeur, de faire entrer cette fille. On introduisit Bella. Comme elle craignait que le prince ne fût pas de retour, la vue d'Adrien la tranquillisa. Celui-ci la regarda et se contenta de dire « Kyrios, Kyrios, Seigneur, Seigneur !» Elle aperçut le rôti et, poussée par la faim, elle prit une chaise, se mit à table devant Adrien et se servit un morceau de poulet qu'elle mangea avec l'appétit d'une malheureuse qui n'a rien pris depuis 2 jours. Adrien secoua la tête en répétant « Kyrios, Kyrios !» Il lui offrit de la confiture de groseille qui assaisonnait le rôti et lui versa un verre de vin. « Tu es une étonnante fille, lui dit-il. Mais dis-moi, quand tu es née, je veux examiner le signe qui a présidé à ta naissance. « Ah, oh, mon seigneur, répondit-elle, je ne pourrais guère m'en souvenir, j'étais trop sotte dans ce temps-là. « Kyrios, Kyrios, dit Adrien, mais comment s'appelle ton père ?»« Oh, mon pauvre père, s'il avait su !»« Kyrios, Kyrios, reprit Adrien, alors, rassure-toi, je ne veux pas savoir du secret. »« Mais l'archiduc ne va-t-il pas venir ?» dit Bella. « Kyrios, Kyrios, oui, tu as raison, je te conduirai près de lui, mais cela ne presse pas. » « Eh, mon cher seigneur, dit Bella d'un air aimable, menez-moi de suite, cela lui fera certainement plaisir, je l'aime tant. »« L'étonnante fille, se dit Adrien, elle me fait le messager de son amour. Eh, qui sait si cet amour n'attachera pas l'âme légère de notre prince ? Oh, il ne va bientôt plus nous être possible de l'éloigner des femmes, elles s'efforceront toutes de l'entraîner dans la mauvaise voie, tandis que celle-ci me paraît jeune et encore innocente. Que dites-vous donc ainsi à part, mon cher seigneur ? Demanda Bella. Je vais te conduire bientôt chez l'archiduc, mais attends encore un peu, tu es fatigué, repose-toi sur mon lit. « Et dis-moi avec confiance d'où tu viens, je garderai fidèlement le secret. » Bella ne put s'empêcher de lui ouvrir son âme. Elle lui raconta toute son histoire. Elle ne lui raconta qu'à chacune seule chose la manière dont elle s'était rencontrée à Buick avec le prince. Elle lui dit que c'était dans la foule qu'elle avait été séparée de Braca. Après ce récit, Adrien tomba dans une profonde méditation et dans de graves calculs. Pendant ce temps, Bella s'endormit. Il s'approcha de son lit et la regarda avec une espèce d'étonnement. C'était en effet bien étrange pour lui de voir une jeune fille reposer sur cette couche froide et solitaire comme celle d'un prêtre. Enfin, il entendit rentrer l'archiduc qui avait passé la nuit à un souper chez le comte d'Egmont. Il laissa passer quelques instants avant d'aller le trouver dans sa chambre. Lorsqu'il entra, Chandrio lui fit signe de marcher doucement parce que le prince était très fatigué et qu'il s'était endormi aussitôt rentré. Et Adrien alla vers le lit, vit la chevelure blonde du prince, réunie comme il en avait l'habitude dans une résille d'or, et se retira sur la pointe des pieds en faisant signe de la main de se tenir tranquille. Pendant ce temps, Chelrio se mordait les doigts pour ne pas rire. Le tour était fait, et Adrien avait pris un mannequin rembourré pour le véritable archiduc. Car tandis que la vraie vivante Bella était chez lui, Charles cherchait en vain chez Golem cette poupée sans vie, le bonheur qu'il avait goûté si pur avec Bella. Le matin, le prince, par l'entremise de Chenrio, était convenu avec Bella Golem qui, au lieu du cœur plein d'amour de la vraie Bella, n'avait qu'un vil cœur de juive, de venir la voir dans la nuit, après qu'elle aurait donné à son petit bonhomme Racine une boisson soporifique qui lui ferait remettre. Braca, qui était dans le secret, devait remplacer Bella dans le lit conjugal, car le petit était si jaloux que même en dormant il tenait toujours sa femme par un doigt qu'il étreignait et qu'il baisait de temps en temps. C'était sa seule manière de la caresser. Cornelius, toujours préoccupé de la seconde Bella, venait de s'endormir lorsque le prince entra dans la maison après avoir attendu quelque temps que Bella Golem se fût débarrassée de son mari. Il était extrêmement curieux de savoir comment elle se trouvait, la femme de Cornelius, et ce qui était arrivé au golem qu'il avait fait faire par le juif pour tromper son mari. Et Golem Bella lui répondit si naturellement qu'il ne se douta pas le moins du monde avoir affaire à une poupée. Surtout parce qu'il avait une extrême confiance dans la pénétration de son regard pour deviner les faussetés de l'âme. Elle lui dit que Cornelius, soupçonnant quelques liaisons entre elle et l'archiduc, s'était d'abord montré très méchant et ensuite l'avait obligé à l'épouser au premier village qu'ils avaient rencontré. Il espérait par là la dédommager de la perte du prince. L'archiduc ne lui demanda pas d'autre explication. Le malheureux avait joué avec les enchantements pour arriver à son but, et maintenant il en était la victime. Dans l'amour, tout est si noble qu'une fourberie est comme une perle fausse enchâssée dans une riche monture et qui éveille la défiance. Le prince n'avait-il pas trompé Bella en cherchant à la mettre en son pouvoir par des moyens surnaturels ? Lorsque le lendemain matin, au lever du soleil, et à l'heure où les corneilles, le seul oiseau des grandes villes, commençaient à crier, Cendrillo vint le réveiller. Le prince sentit qu'il y avait eu quelque chose d'incomplet dans son bonheur. Son cœur était triste et serré. Il n'était pas heureux comme lorsqu'à Buick il prenait congé de Bella. Il lui semblait que ce n'était plus le même être qui avait dormi à côté de lui. S'il n'était pas parti si tôt, il aurait peut-être découvert sur son front le mot qui la faisait vivre. En retournant au palais, il maudit cette nuit et jura de ne plus retourner à ce rendez-vous. Rentré chez lui, Cendrillo lui raconta le danger qu'il avait couru et comment il avait manqué d'être découvert par le vieil Adrien. Pendant ce temps, Adrien était dans une grande perplexité. Après avoir quitté le prince empaillé, il avait fait de grands projets qui revenaient tous à favoriser la passion du prince. Il cherchait à s'excuser à ses propres yeux de garder Bella. À cette heure avancée de la nuit, il n'aurait pu sans scandale faire sortir une jeune fille de chez lui. Il avait bien fallu être indulgent et donner son lit à la pauvre Bella, accablée de fatigue. Il s'étendrait lui-même sur un canapé loin d'elle pour éviter toute tentation. Son embarras redoubla lorsqu'il voulut prendre un verre que Bella avait placé tout près de son lit. C'était le seul qu'il y eut dans sa chambre et il avait extrêmement soif. Il se leva enfin et alla le chercher. Bella, dont le sommeil était très agité, s'éveilla à moitié et le regarda. Jamais un tel regard n'avait été dirigé vers le pauvre Adrien, et malgré lui, il mit beaucoup plus de temps qu'il n'en fallait à boire et à chasser une mouche qui revenait toujours piquer cet ange endormi. À la fin, il fut pris d'une sensation qu'il avait à peine soupçonnée. Vénus s'était emparée de lui. Il récita en lui-même des vers d'Horace, et je ne sais où cette érotique réduction l'avait mené. L'aurait mené. S'il n'avait rencontré dans une glace sa tonsure et ses cheveux gris, ce spectacle le glaça. Adrien amoureux, c'était un saint qui s'enivrerait le jour de sa mort. Il s'étendit en soupirant sur le dur parquet, mais il ne put dormir, son imagination était en mouvement. Il aurait bien voulu se débarrasser de Bella, mais d'un autre côté, il ne pouvait se résoudre à la repousser durement. Le hasard conduisit ses yeux sur les vêtements d'un domestique qui, après avoir été longtemps à son service, s'était fait chasser pour ses mauvais tours. Ses habits lui parurent propres à faire sortir de la maison la jeune fille sans qu'elle fût découverte. Lorsque Bella se réveilla, elle se frotta les yeux et demanda avec effroi où elle était. Adrien la rassura. Il la pria de dire un Ave Maria qu'elle lui récita avec dévotion. Puis il lui dit qu'il fallait patienter, qu'il ne pouvait l'amener à l'archiduc parce que cela était contre sa conscience, mais qu'il prendrait soin d'elle si elle lui promettait le secret. Il lui dit alors qu'il avait eu un domestique habitant chez le pauvre parent qui venait le matin et le soir pour s'informer s'il n'avait pas de commission ou de courses à faire, et que si elle voulait mettre les habits de ce domestique, elle pourrait faire auprès de lui ce service qu'il ne pouvait demander au laquais du château. Bella accepta tout ce que lui proposa le vieillard, car elle entrevoyait la possibilité de rencontrer l'archiduc au moyen de ce déguisement, et c'était là sa seule pensée. Elle courut chercher le costume de son nouvel emploi, mais, entièrement étrangère à ses vêtements, elle ne se reconnaissait pas entre les culottes et les pourpoints, et son vénérable maître fut obligé, non sans rire, de l'aider à s'habiller. Elle lui dit qu'elle allait retourner se cacher à la maison de campagne et qu'elle s'y noircirait si bien le visage avec des décoctions de plantes que personne ne la prendrait pour une fille. Adrien reconnut à ce trait la prudence naturelle à son peuple. Il craignait cependant encore d'être découvert, mais il se rassura complètement en entendant, lorsqu'elle passa sur la place publique, des garçons lui parlaient comme à leur ancien camarade, le domestique d'Adrien. Après cela, il se rendit chez l'archiduc, qu'il trouva dormant après une nuit sans sommeil. Il le secoua pour le réveiller et lui fit une longue réprimande sur la paresse, où la vertu, semblable à un navire perdu dans une mer sans fond, ne veut pas jeter l'ancre et finit par s'engloutir. Le soir, il n'avait pas voulu le déranger, parce qu'avant minuit, les heures de sommeil sont sacrées, et une de ces heures vaut mieux pour le repos du corps et pour l'esprit que deux après. Mais ronfler quand le soleil lui donnait dans le nez était tout à fait inconvenant. Il parla ainsi pendant une heure, et sa réprimande rendormit le prince encore plus profondément. De sorte que le vieux précepteur, découragé, l'abandonna et se consola en démontrant à Alcenrio que ce prétendu ouvrage de Pierre Lombard qu'il avait découvert à Buick était ou supposé ou fait par l'auteur à une époque à laquelle son génie et ses connaissances l'avaient abandonné. Alcenrio fit l'étonné, mais intérieurement, il riait de voir qu'une vieille paperasse avait coûté tant de travail à ce savant homme. Il l'interrogea sur l'extraordinaire conjonction qu'il avait observée à Buick, sur quoi Adrien lui assura qu'un puissant conquérant devait être apparu dans l'Orient, mais où il ne pouvait pas le préciser. Gerio faisait semblant de l'écouter, mais il pensait à toute autre chose. Il avait dans la tête plusieurs événements dont il ne pouvait pas trouver la rime. Peut-être parce que le sort y avait mis que des assonances. Par exemple, il n'avait pu deviner ce qu'était devenu Bella Golem. Il ne savait pas non plus comment la vraie Bella avait rejoint la vieille Braca qu'il avait laissée à Buick entre les bras de l'archiduc, toute chose qu'il n'avait pas eu le temps d'approfondir avec le prince. Lorsque le vieillard eut quitté la chambre en disant « Kyrios, Kyrios, je donnerais bien quelque chose pour découvrir ce conquérant. » Chenrios soumit au prince les questions qu'il s'était adressées à lui-même. L'archiduc n'était pas moins inquiet, car au milieu de son bonheur, il lui semblait que la Bella qu'il avait rêvée n'était pas celle qu'il venait de voir. « C'est certainement celle que j'aime et qui est perdue, » se disait-il. « Celle qui, au seuil de ma vie, m'est apparue comme une aurore passagère au milieu d'un nuage divin. Ce que j'ai pressé dans mes bras, ce n'est que son imitation terrestre qui satisfait avec moi ses appétits grossiers et dont mon cœur a maintenant horreur. Que je devienne un pauvre pèlerin, que je parcours la terre en redisant mon malheur à tous les vents et en cherchant partout celle à qui j'appartiens pour toujours. Et si je ne la trouve pas, que je me réfugie dans la solitude et la paix d'un monastère. Chenryo, voilà ce que je désire. Et si je n'y arrive pas, je refuserai de remplir les espérances que le monde attend de moi. » Chenryo, laissant le prince à ses réflexions, lui promit d'aller à Buick et de faire toutes les recherches possibles pour déchiffrer l'énigme. Pendant ce temps, Cornelius fut mandé au château. L'archiduc, pour rendre moins dangereuses ses visites à Bella Golem, avait promis à celle-ci de donner un emploi à son mari, à condition qu'il l'obtiendrait d'un certain nombre de seigneurs de haut rang le témoignage qu'il soit véritablement un homme. Le petit avait déjà couru toute la matinée et s'était fait donner par écrit l'opinion de différents seigneurs sur sa nature. Et il vit, avec étonnement, que chez tous il y avait plus ou moins de doute à son égard. Tous ces témoignages s'exprimaient d'ailleurs d'une manière conditionnelle. Voici, par exemple, ce que disait le baron de Vanderloo. Mais s'il restait assis à une table, on pourrait encore le faire passer pour un homme, mais il faudrait qu'il ne se levât jamais à cause de la petitesse disproportionnée de ses jambes qui lui donne l'air d'un chien habillé. Le seigneur de Meulen déclarait que oh, il serait irréprochable en tout point si sa mère n'avait pas eu apparemment le corps trop chaud, à cause de quoi il ressemblait à un pain trop cuit, qui serait crevassé, ratatiné. Le comte d'Egmont avait mis sur la circulaire « Il est très bon dans certains cas de pouvoir cacher ses forces à l'ennemi. Cornelius pourrait être utilement employé, étant mis dans la poche d'un soldat. Il appuierait son mousquet sur un des boutons de la veste et l'ennemi serait effrayé de voir une fusillade sortir de la poche des adversaires. » Le petit porta au prince ses observations et d'autres du même genre, qui toutes avaient été rédigées avec la meilleure intention possible de le faire réussir. L'archiduc les lut et eut grand-peine à ne pas éclater de rire. Malgré cela, il lui promit une place convenable dans un régiment qu'il allait former et où il introduisit un nouveau genre de casque, remarquable surtout par un grelot et deux longues oreilles, qui en faisaient un ornement original. Le petit était au comble de la joie de voir son désir satisfait. Aussi se trouvait-il très fier de recevoir chez lui l'archiduc qui lui demanda des nouvelles de sa jeune femme et manifesta le désir de la connaître. Ce jour même, une fête devait avoir lieu dans la maison de Cornelius. Malgré une nuit de désappointement, malgré ses préventions, l'archiduc sentait une force magique qui se moquait de son amour pour la vraie Bella et qui lui inspirait un désir invincible de revoir Golem. Ce sentiment auquel il ne pouvait résister n'était pas d'accord avec ce qu'il avait au fond du cœur. L'un de ses sentiments exigeait quelque chose de possible et de positif, tandis que l'autre se perdait dans d'interminables rêveries. Dès le matin, Bella avait pris tristement le chemin de la maison de campagne, où elle comptait se glisser sans être vue et par des détours connus d'elle seule. Mais elle rencontra Peau d'Ours qui s'était attardé à compter son trésor, qu'il avait presque recouvré par son travail. Lorsqu'il aperçut Bella, il ne put retenir ses larmes et lui demanda ce que c'était que sa nouvelle maîtresse, car il avait très bien remarqué qu'elle avait une figure fausse et imitée. Mais, de peur de perdre sa place, il n'en avait osé rien dire. Bella lui recommanda le silence. Elle lui dit que depuis l'accueil qu'on lui avait fait à son retour, elle avait en aversion Bracca, Cornelius et le reste, qu'elle ne pouvait se résoudre à soumettre son indépendance de princesse aux exigences de la ville, et qu'elle voulait de nouveau vivre dans sa vieille maison jusqu'à ce qu'elle rencontrât des gens de son peuple et libres comme elle. Après cela, elle lui demanda comment les choses s'étaient passées et pourquoi, le soir de son arrivée à Gand, elle ne l'avait pas vue. Il lui raconta qu'il avait été envoyé par la fausse Bella pour introduire par une porte dérobée l'archiduc qui lui avait donné rendez-vous. Ah, c'est beau, Bella lui ferma la bouche. Elle ne voulait pas rien entendre après cela. Après avoir appris que cette aventurière lui avait enlevé la dernière chose qui la fit vivre au monde, l'amour de l'archiduc, sa douleur déborda dans son âme. Lorsqu'elle put pleurer, les larmes la soulagèrent. Elle se pendit au cou de Peau d'Ours et y resta attachée pendant plus d'une heure. Heureusement, le chemin n'était pas fréquenté, car autrement on se serait arrêté pour les regarder. Peau d'Ours, calculant en lui-même combien il avait encore de jours à servir, se mit à son tour à pleurer sa position, sans prendre attention au malheur de Bella. Semblable en cela au moulin qui ne trouve belle que les eaux qui font tourner sa roue. Enfin, craignant d'arriver trop tard à Gand et voulant se débarrasser de Bella pour terminer cette scène, il écrasa entre ses doigts une prune véreuse tombée d'un arbre voisin et dit « Combien ce ver est plus heureux que nous autres hommes. Plus il vit, plus le fruit devient doux. Seulement, je ne saisis pas l'idée de cet animal, de rester enfermé dans sa chambre et de se soustraire ainsi à toutes les jouissances de la vie. » Le niais ne comprenait pas que sa position n'était autre que celle du ver caché dans un fruit délicat. Bella était trop triste pour faire attention à ce qu'il disait. Elle lui ordonna de partir. Et il la quitta, en lui promettant de revenir chaque nuit et de lui apporter ce dont elle avait besoin, moyennant quelques petites récompenses. Elle ne pensait pas à ce qu'elle disait en ce moment, car elle avait tout perdu. Ne s'inquiétant pas si elle pouvait être vue, elle entra, sans aucune précaution, dans cette maison mystérieuse. En ouvrant la porte au moyen d'un secret de la serrure, elle ne fut assaillie par aucune considération sur le changement de son sort. Elle se sentait déshonorée, méprisable, depuis que l'archiduc ne l'aimait plus. Elle voulait l'oublier, tandis que malgré elle, toute son inquiétude était de savoir où il se trouvait. Guidée par cette pensée bien plus tôt que par la faim, elle revint le soir au palais. Elle trouva fermée la porte d'Adrien, qui était en discussion avec plusieurs grands génies de sa connaissance. Elle restait indécise sous l'obscure entrée du château lorsque le prince passa. Cet endroit n'étant pas éclairé, il la prit pour l'ancien domestique d'Adrien, qu'il s'était attaché par quelques petits cadeaux, et il lui cria de prendre une torche et de l'éclairer jusqu'à la maison de M. de Cornelius. Bella s'empressa d'obéir. Elle alluma une torche et marcha devant lui. L'archiduc était fort agité. Un ami intime était arrivé d'Espagne, avec la nouvelle certaine que son grand-père ne pouvait plus lutter que quelques jours contre la maladie qui le minait depuis longtemps. En vain fuyait-il la mort et allait-il d'une ville à l'autre, comme un malade qui veut changer de lit à chaque instant. Carvajal, Zapara et Vargas, ses médecins, lui avaient annoncé l'approche de ses derniers moments, et voulant réparer ses torts envers Charles, il avait nommé régent le cardinal Huniez au lieu de Ferdinand et laissait sans contestation à Charles sa succession légitime. L'attrait magnétique d'une royauté prochaine agitait le cœur ambitieux de Charles, semblable à l'aiguille aimantée qui se meut pour tourner vers l'étoile polaire. Il était si absorbé qu'il ne jeta pas un regard à Bella. Il marcha sans faire attention, en suivant la lumière de la torche, et une fois arrivé, il ordonna à Bella d'attendre sa sortie à la porte. La pauvre Bella. En éteignant sa torche, elle ressemblait à un bon génie qui désespère de sauver celui qui lui est confié. L'air et le bon altier du prince lui avaient ôté tout le courage dont elle avait besoin pour lui parler. Elle le regardait comme perdu à son amour. Elle se tenait tristement appuyée contre le mur lorsqu'un bruit de musique vint l'attirer de sa douloureuse rêverie. Elle n'entendait pas les paroles des musiciens qui demandaient l'aumône devant la maison de Cornelius, splendidement illuminée. Mais ces musiciens lui rappelèrent aussitôt la manière dont elle s'était sauvée des mains des vieillards, ainsi que les émotions auxquelles elle avait été alors en proie. Elle craignait de les voir approcher, elle ne savait pas ce qu'elle aurait perdu en se retirant. Se voyant seule au milieu de cette réunion d'hommes qui irait la nuit dans la ville, elle eut peur et se réfugia entre les colonnes d'une petite chapelle de la Vierge, peu fréquentée et adossée à la maison qui avait été la sienne. Cette bande de musiciens qui se faisait entendre aux portes des maisons était bien différente des grossiers chanteurs de la kermesse. Ce n'étaient pas des mendiants ni des voleurs. C'étaient des jeunes gens de toute profession qui, le soir, se réunissaient avec leurs guitares et chantaient chacun leur lead. Et ce qu'ils recueillaient, ils allaient le dépenser joyeusement le matin avant de se séparer, ou bien ils le donnaient à la fille qui avait bien voulu les accompagner. Ces chanteurs étaient si aimés dans la ville que les parents ne couchaient pas leurs enfants avant qu'ils eussent fait leur tournée. Et si les petits garçons préféraient suivre les tambours qui battaient la retraite, les petites filles goûtaient bien mieux les chanteurs qu'elles accompagnaient jusqu'à leur cabaret. Un grand nombre de chants, les uns gais, les autres tristes, avaient traversé l'oreille de Bella sans y laisser d'impression, lorsqu'un jeune étudiant voyageur vint se placer devant l'image de la Vierge, de telle sorte que son pâle visage était faiblement éclairé par les lumières de la maison, et il commença un lied, comme on en chantait beaucoup alors, d'une voix qui trahissait son émotion. La nuit propice est arrivée, Les ténèbres cachent les hommes les uns aux autres. Je peux donc laisser couler mes larmes et me promener sous la fenêtre de ma bien-aimée. Le gardien de nuit crie des heures d'un ton monotone. Le malade gémit sur son lit de douleur. L'amour se plaint de ses blessures et les cierges brûlent autour des cercueils. Ma bien-aimée est morte pour moi en ce jour où elle épouse mon rival. J'ai enseveli mon amour dans la douleur. Vous comptez mes pleurs, oh, ce serait compter les étoiles. Autant la lumière des astres donne du courage, autant la lumière qui vient de sa fenêtre me fait mal. Je vois des épais nuages dans le lointain et des spectres qui m'entourent. La maison est pleine de tumultes et de bruits étranges. Ces hommes m'évitent et ne me parlent pas. Ils ont pitié de moi et s'arrêtent autour de moi. Ne suis-je donc point de leurs semblables? Pendant le jour, les forêts me cachent, et la nuit sombre vient me rendre la liberté. Ma bien-aimée est heureuse dans ce beau jour qui me voue à la douleur éternelle. Combien de fois me suis-je assis ici, plein de joie, jusqu'au moment où les étoiles commencent à pâlir. Ah, le monde m'a oublié depuis que ma bien-aimée m'a abandonné. La terre verdoyante n'existe plus pour moi. Le brûlant soleil ne luit plus pour moi. La clarté de la lune m'est insupportable. La nuit voit couler la fontaine de mes larmes. Là, il s'arrêta, rejeta son manteau sur son bras, découvrit une lanterne d'où il tira un cierge allumé et le piqua devant l'image de la Sainte Mère. Puis il chanta sur un autre air. La Sainte Mère ne pense plus à moi, notre Père ne pense plus à moi. Cependant, j'allume ce cierge pour la Sainte Mère. Et je crois au céleste Père. Lorsque le cierge éclaira le visage du jeune homme, Bella se souvint de l'avoir plusieurs fois vu devant sa maison lorsqu'elle regardait dans la rue. Elle se supposa, et non sans raison, la cause de ses tourments et comprit qu'il la croyait mariée. Un amour pur et fidèle lui était resté inconnu, tandis que celui qu'elle aimait l'abandonnait pour une aventurière. Alors fallait-il donner son amour à ce malheureux? C'était sauver une vie pleine de dévouement et de respect. Alors elle se dirigeait déjà vers le jeune chanteur pour se faire connaître et lui découvrir sa naissance et sa nation. En ce moment, la lune vint éclairer un clocher voisin qui se dressa devant elle et lui rappela les pyramides de l'Égypte et sa patrie. Cette illusion chassa toute idée d'amour. Un des garçons chanteurs fit le tour de l'assemblée tenant une chandelle d'une main, un plateau de l'autre. Il passa également devant elle. Ce plateau ne contenait que des fruits, quelques poires et quelques pommes, reste du repas que les enfants leur avaient donné. Aussi, Bella, croyant qu'on les lui offrait, prit une poire et la porta à sa bouche. Le garçon la regarda avec étonnement et lui fit comprendre qu'il fallait payer. Bella, fort embarrassée, porta la main à sa poche et, prenant pour de l'argent un vieux bouton que le domestique y avait laissé, elle le déposa dans le plateau. Le garçon se mit à rire et appela toute la bande qui lui ordonna, puisqu'il n'avait pas d'argent, de chanter son plus beau lied. La pauvre Bella était dans le plus grand effroi. Aucun lied ne lui revenait à la mémoire au moment où elle était obligée de chanter. Enfin, elle se leva et dans sa douleur chanta ce qui suit. Celui qui s'est frappé contre une pierre saute haut. Son visage dit « Hélas, c'est malheur, appellerez-vous cela danser ?» Celui que l'amour a trompé crie haut. Sa voix dit « Hélas, c'est malheur, appellerez-vous cela chanter ?» Ô douleur, comment pourrais-je te chanter ? Tu es si dur pour moi. Ô mon cœur, où te porter maintenant ? Personne ne veut plus de toi. L'amour et l'honneur sont perdus. » Et Bella avait chanté ces paroles avec une telle émotion dans la voix que le chanteur mélancolique cessa sa prière et, sans la regarder, versa une partie des fruits de la monnaie du plateau dans sa toque qu'elle tenait à la hauteur de ses yeux pour se cacher. S'il avait pu la voir, il lui aurait tout donné car il était le chef de la troupe. Les amours purs comme celui-là donnent à l'âme une telle délicatesse qu'on fait du bien même à ceux dont le talent ne peut vous détourner de vos pensées. Le pauvre écolier se sentit comme soulagé après cette aumône. Par discrétion, il ne leva pas les yeux vers celui à qui il venait de faire du bien et emmena sa troupe de peur qu'on ne le tourmentât encore ce pauvre étudiant le faisant chanter de nouveau. Lorsque Bella fut seule, elle courut se jeter à genoux à la place que venait de quitter le jeune homme et où il avait laissé sa lanterne et un bouquet. Les fleurs exhalaient une si douce odeur et la Sainte Mère parut la regarder avec tant de tendresse qu'elle sentit que le péché de son peuple était pardonné. Sainte Mère, s'écria-t-elle, nous pardonnes-tu notre crime? Nous recueilles-tu après que nous t'avons chassé? Il lui sembla qu'alors la Sainte Mère la regardait avec amitié, et son cœur s'oublia si bien dans cette contemplation qu'elle remarqua à peine la foule des invités qui, vers minuit, sortir de la maison de Cornelius. Deux pages de l'archiduc se racontaient qu'ils avaient pris le petit Cornelius endormi avec de l'opium et l'avaient caché sous le poêle, où ils l'avaient suspendu en l'attachant par les quatre membres au pied du meuble. Et qu'il était très fâcheux qu'on ne fît pas encore de feu, car il aurait poussé de jolis cris en se sentant cuire. Ils passèrent sans apercevoir Bella, qui ne fit pas non plus attention à eux. Et lorsque le cierge du pauvre écolier fut éteint, elle se sentit transportée, les yeux ouverts, dans un autre monde. Elle se vit tenant sur son sein un enfant ressemblant à l'archiduc, et que des peuples nombreux venaient saluer de tous côtés. Au milieu de cette vision, elle entendit la voix aimée de l'archiduc qui lui dit « Allons, réveille-toi, allume ta torche et éclaire-moi. » En ce moment, Bella chancela. Elle avait vu Bella Golem, qui, couverte d'un grand manteau, un flambeau à la main, avait reconduit le prince jusqu'à la porte. L'archiduc, sans se préoccuper des difficultés qui pouvaient l'empêcher de voir Golem, s'approcha d'elle et lui dit « Si demain je serai à tes côtés, après-demain aussi et aussi toutes les nuits, pourquoi pas aussi le jour? Si j'étais libre et prince d'un peuple qui, comme nous, oublie dans les joies de l'amour les folies de la vie. Souviens-toi des perles que tu m'as promises, dit Golem. » Bella alluma sa torche au flambeau. Sa toque était restée devant la chapelle avec les fruits, et son manteau cachait ses habits d'homme. Le duc la reconnut, et portant la main à son front, il s'écria « Mais elles sont deux !» Faut-il donc que je te revoie toujours ici, maudite créature ? Toujours craindre que tu me vêtes fin à mon existence ? Cria Golem en la piquant d'une longue aiguille à cheveux faite en forme de dard. Mais l'archiduc, à qui, en ce moment, venait de se révéler tout ce qu'il n'avait pu croire, saisit Golem Palla par les cheveux. Sur son front, il vit le mot qui la faisait vivre à Emmaette. Il effaça précipitamment la première syllabe et le corps tomba aussitôt à terre. Le manteau était étendu sur cette masse informe. On aurait dit un de ces tas de sable que ramassent les servantes et sur lesquels elles étendent un linge quand on les rappelle à la maison pour que personne ne vienne y toucher. Ni l'archiduc ni Bella ne jetèrent un regret à cette masse d'argile. En un tour de main, le prince enleva Bella dans ses bras avec tant de précipitation qu'il fit tomber la torche. Il la porta, cachée dans son manteau, jusqu'à une fontaine où il se lava d'eau fraîche les mains et le visage pour effacer toute trace de l'attouchement qu'il avait eu avec cette trompeuse créature d'argile. Lorsqu'il se fut purifié, il baisa la vraie Bella sur les lèvres et lui avoua comment toutes ses faussetés l'avaient fait tomber dans un piège infâme et la pria de lui raconter comment elle se trouvait dans ses habits. Bella, se retrouvant en possession d'un trésor qu'elle avait cru perdu, était cependant très agitée et cherchait à paraître joyeuse et calme. C'étaient bien encore les mêmes liens qui les unissaient, mais ils n'avaient plus cette première fraîcheur, semblable au duvet d'un beau fruit, que le contact du monde enlève bientôt aux âmes innocentes. C'était ce qui nous arrive à nous autres buveurs, lorsqu'on achève de remplir un tonneau de vin précieux avec une petite quantité de vin inférieur. Le vin n'en est pas moins clair, moins goûté, mais il n'est plus pur. Charles restait calme, mais par la force de sa volonté, il voulait se venger d'avoir été trompé. Et la conduite d'Adrien l'irritait si fort qui ne parut pas s'intéresser à ce que lui racontait Bella de ses malheurs, de son abandon et de son désir de retourner en Égypte. L'archiduc, troublé et échauffé par la joie de bientôt régner, résolut de jouer Adrien, qui allait partir en Espagne pour surveiller le cardinal Jiménez, un tour qui lui indiquerait bien la fin de son préceptorat. La nuit même, il devait se tenir un conseil présidé par Adrien, et il fut convenu qu'à la fin de la séance, Bella entrerait accuser Adrien de la délaisser et demander un jugement contre lui. Bella, voyant l'archiduc si calme, essaya à son exemple d'oublier sa tristesse et accepta son rôle dans cette plaisanterie. Elle croyait de son devoir de ne plus se souvenir de ses douleurs, surtout parce que l'archiduc lui avait promis de faire quelque chose pour elle et pour son peuple dispersé. Après s'être convenus de leur plan, ils rentrèrent au château par une porte dérobée. L'archiduc offrit à Bella de quoi se rafraîchir et la fit reposer sur son lit. Puis il la quitta, bien à regret, pour entendre pour la première fois discuter le sort de l'univers. Le conseil se composait d'Adrien, de Chièvre, de Guillaume de Croy, son neveu et de Sauvage. Lorsque l'archiduc entra, il remarqua, non sans vanité, la manière inusitée dont on le salua. Chacun calculait intérieurement ce que pouvait lui rapporter ce changement. Pour eux, Ferdinand, son grand-père, n'était plus malade, il était mort, enterré et oublié. Tous s'efforçaient de l'emporter sur les Espagnols dans le cœur du jeune archiduc, qui avait une aveugle confiance en leur dévouement et cherchait à faire triompher leurs intérêts et leurs ambitions bien plutôt que l'honneur et la gloire de leur roi. On croyait le conseil fini lorsque Charles annonça que, maintenant qu'il était son propre maître, il voulait ouvrir une enquête sur la conduite de son précepteur Adrien, principalement pour s'assurer s'il avait exactement rempli ses vœux de chasteté. Tous parurent étonnés, et Adrien, qui n'avait jamais entendu parler le prince sur ce ton, et se croyait sûr de son innocence, perdit son sang-froid et offrit de se soumettre au tribunal le plus sévère. « Nous ne voulons pas juger, dit Charles, mais seulement donner des preuves. Et voici qui va vous montrer sa ruse cléricale. » À ces mots, il fit entendre un signal convenu et Bella entra dans la salle avec la livrée du cardinal. Le cardinal rougit aussitôt visiblement. Les autres personnages ne comprenaient pas ce que cela signifiait, jusqu'à ce que l'archiduc demanda à Adrien de lui dire en conscience si c'était bien là son domestique, si c'était un garçon ou si au contraire il n'était pas sûr que ce fût une fille et si enfin cette fille n'avait pas couché dans son lit. Adrien avait tellement perdu toute son assurance qu'il ne put prononcer un mot. Toutes les arguties qu'il avait employées dans sa vie ne vinrent pas l'aider à se défendre. Enfin, il dit qu'il n'avait rien à répondre, que c'était un complot monté contre lui et qu'il serait bientôt vengé. L'archiduc et Bella ne voulurent pas jouir plus longtemps de son embarras. Il prit Bella dans ses bras et réhabilita le pauvre Adrien aux yeux de l'assemblée en disant que c'était lui-même qui avait amené cette jeune fille et l'avait mise au service du cardinal pour l'avoir plus près de lui. Adrien respira après ces paroles et les conseillers vantèrent l'habileté précoce du jeune prince. Chièvre, qui le croyant encore fort maladroit, l'aurait volontiers laissé faire la cour à sa femme pour le tenir plus facilement en son pouvoir, assura que dorénavant, il se garderait bien de le laisser seul avec elle. L'archiduc dit à Bella d'aller trouver Madame de Chièvre, qui habitait au château, de se faire donner les plus beaux habits et de revenir avec elle au conseil, où il avait encore quelques papiers à signer pour le départ d'Adrien. Ces papiers à expédier n'étaient qu'un prétexte pour gagner du temps. Des désirs opposés se partageaient l'esprit de l'archiduc. Il se demandait ce qu'il devait à l'amour et ce qu'il devait à sa position. S'il pouvait épouser une duchesse d'Égypte, et si cela n'apporterait pas le trouble sur son trône. Il n'avait pas encore terminé cette délibération intérieure, lorsque Bella, vêtue d'une robe de brocart d'argent parsemée de fleurs rouges, une petite couronne de duchesse sur la tête, entra dans la salle avec Madame de Chièvre. Tous restèrent étonnés à la vue de son noble maintien, au point que Sauvage et De Croy se dirent à l'oreille que ce devait être quelque princesse que Charles avait résolu d'épouser. Charles s'inclina devant elle, la fit asseoir sur le siège d'honneur qu'il venait de quitter et essaya de parler. Son émotion l'en empêcha. Chièvre s'aperçut de cette hésitation et, voulant lui donner le temps de se remettre, il vint vers lui et lui raconta qu'Adrien était parti et que la crainte de voir sa réputation endommagée lui avait porté à l'estomac. Le succès de sa plaisanterie tira pour un instant l'archiduc de son agitation intérieure, et, après un silence, il dit à l'assemblée: « Je reconnais publiquement Isabelle, fille du duc Michel d'Égypte, comme héritière de ce pays et princesse de tous les bohémiens errant d'Ossa et au-delà des mers. Je lui donne la liberté de les renvoyer tous dans leur patrie, à la seule condition qu'elle restera auprès de nous pour faire notre bonheur. » Bella, qui n'avait pas tout entendu, occupée qu'elle était à conserver son maintien et son air imposant, lui sauta au cou lorsqu'il prononça ces derniers mots. Ce mouvement soulagea Charles, qui craignait d'être obligé d'aller jusqu'au mariage, et il lui rendit son baiser avec un redoublement de tendresse. Les conseillers demandèrent qu'on procédât au baisement, et Chièvre, qui cherchait à prévenir tous les désirs de son maître, dit à sa femme de loger chez elle, le mieux possible, la princesse d'Égypte, jusqu'à ce qu'on lui eût préparé un palais digne d'elle. Charles lui fit la grâce d'accorder ce que, quelque temps auparavant, il aurait demandé comme une faveur à Madame de Chièvre. Belle passa avec sa nouvelle mère dans une autre partie du château, tandis que Charles resta encore quelque temps avec ses conseillers. Le jour était levé depuis longtemps, les oiseaux chantaient leurs chansons et les hommes politiques allaient se coucher. Charles se contenta de s'étendre sur un banc de gazon dans le jardin, où il ne put dormir, et où Bella put le contempler de sa chambre. Dans la maison de Cornelius régnait le plus grand désordre. Lorsqu'en se réveillant, il se trouva sous le poêle, il se mit à crier et appela les domestiques qui accoururent dans les costumes les plus légers. Tous étant plus ou moins ivres, ils ne s'étaient pas inquiétés le moins du monde de leur maître. Peau d'ours lui-même avait oublié cette nuit d'aller voir son trésor. Le petit, qui était balancé au-dessus d'un carreau représentant la mer couverte de vaisseaux, s'imaginait dans son ivresse qu'il volait au-dessus des flots. Mais lorsqu'on lui eut détaché les pieds et les mains, et qu'il tomba sur ce qu'il prenait pour la mer, il se crut perdu. Et cette idée le poursuivit même après qu'on l'eût retiré de dessous le poêle et qu'on l'eût lavé. Enfin, il finit par se dégriser et se fit mener à sa chambre à coucher. Mais quel ne fut pas son trouble en ne trouvant d'autres traces de sa femme que le lit défait. C'était une énigme pour tous, même pour Bracard et pour la servante, qui savaient cependant qu'il avait dû se passer quelque chose d'extraordinaire. « Le ciel l'aura rappelé à cause de ses vertus, mon enfant, » dit Bracard. « La fenêtre est encore ouverte. » Le pauvre petit Cornelius regarda par la fenêtre pour voir s'il n'apercevait pas encore de loin sa femme. Bracard se consola en pensant que l'archiduc avait dû lui préparer un refuge. Le petit à qui une hirondelle avait laissé tomber quelque chose dans la bouche, quitta la fenêtre et se mit à courir comme un fou dans la maison. Il trouva la porte ouverte et réprimanda violemment Peau d'ours à ce sujet. Mais lorsqu'il vit le manteau de sa bien-aimée et dessous une masse d'argile, sans savoir pourquoi, il se prit d'une tendresse pour cette terre comme si c'eût été la femme qu'il avait perdue. Il la ramassa soigneusement et la porta dans sa chambre. Il l'embrassa mille et mille fois, tout en cherchant à lui donner une forme qui ressemblât à sa Bella. Cette occupation lui apporta quelques consolations. Pendant ce temps, il avait envoyé de tous côtés chercher des nouvelles de la retraite où elle s'était cachée, ou du moins du chemin qu'elle avait pris pour s'enfuir. Mais personne ne put lui donner de renseignements. Enfin Bracca, qui se croyaient frustrés des profits qu'elle aurait pu tirer de l'amour de l'archiduc et de Golem Bella, lui apporta la nouvelle que Isabelle, la princesse d'Égypte, qui avait été recueillie au château, et grâce à qui tous les bohémiens obtenaient la permission de se montrer sans obstacle et de gagner leur vie librement, n'était autre que sa femme. Le petit resta un instant cloué en place, puis il saignit son épée et courut au château demander à l'archiduc des explications. L'archiduc lui donna aussitôt audience, l'entendit, lui dit qu'il allait citer la princesse à son tribunal et assembla pour cela plusieurs seigneurs autour de lui. Cornélius était si enorgueilli, il faisait des yeux si vaniteux, qu'il put à peine reconnaître Isabelle vêtue d'une robe de soie brodée d'hermine et accompagnée de Madame de Chièvre qui avait une robe de damas sur laquelle étaient brodés Adam et Ève au pied de l'arbre du bien et du mal, lorsqu'elle entra dans la chambre et vint s'asseoir avec cette dame à la place qui leur avait été assignée. L'archiduc demanda alors à Monsieur de Cornelius Nepos sur quoi il fondait sa plainte. Cornelius, ou qui n'avait pas étudié la rhétorique pour rien, se mit à expliquer toute l'affaire et à dérouler son plaidoyer. Il fut si pathétique qu'il s'empara de toutes les sympathies conjugales des juges. Il parla des premières joies de deux nouveaux mariés, de cette tranquillité qui n'est interrompue que par les efforts qu'on fait pour employer toutes les forces de sa passion à produire un premier né, le plus beau possible, car l'usage des hommes n'est pas de partager entre les enfants, selon leur talent, la succession du père, mais de tout donner à l'aîné qui doit représenter la famille. C'était ce premier né, la future joie du pays d'Adelm, que la conduite légère de sa femme venait de lui enlever, sans penser que le trouble qu'elle avait dans son âme se reproduirait peut-être dans celle de son enfant. « Mais le diable parle par la bouche de cet avorton, » dit tout bas de Chièvre. « Moi qui ne m'aime pas facilement, je m'intéresse à son infortune. » Le petit continua. « Et comment pourrais-je vous dire mon malheur, puisque pendant cette même nuit, je voguais sur l'immense océan et que je fis naufrage sur un lit qui n'était pas le mien ? Triste présage de ce qui devait arriver au mien, et ce fut cela qui donna l'éveil. Comme un aigle, les ailes déployées, volant au-dessus des flots, je regardais le soleil, espérant qu'il m'indiquerait la retraite où était caché tout mon bonheur. Oui, c'est vrai, s'écria Madame de Braca, qui avait été appelée comme témoin. C'était de jeunes garnements qu'il avait attaché sous le poil, et voyez le pauvre petit homme, il est encore tout faible, il aurait pu se faire bien du mal. À cette interruption, faite dans une bonne intention, tout l'auditoire éclata de rire. Oh, le petit furieux tira son épée et allait frapper la vieille si Hallebardier n'était venu à temps pour l'arrêter. Et après ce plaidoyer, il fut interrogé avec Braca par Thario, selon les formes régulières de la justice, et ils furent convaincus d'avoir vécu jusque-là dans la ville sous des titres supposés. Mais quant à leurs accusations à l'égard de Bella, ils ne voulurent pas céder et demandèrent qu'on fît venir le prêtre qui avait béni leur union. Bella ne put se contenir plus longtemps. Elle leur demanda avec indignation s'ils avaient oublié la manière dont ils l'avaient chassée de leur maison après l'avoir abandonnée à Buick, en la laissant entre les mains d'une infâme intrometteuse. Elle leur demanda si c'était ainsi que le petit était reconnaissant de ce qu'elle avait fait de lui un homme d'une racine informe. Le petit et Braca se trouvèrent dans un grand embarras. Mais la vieille eut bientôt fait ses réflexions. elle passa sans hésiter du côté de Bella. « Tout ce que j'ai dit, s'écria-t-elle, ne m'est sorti de la bouche que par crainte de ce petit homme, et maintenant je dois avouer qu'une personne quelconque a été unie à Cornelius sous le nom de Bella, laquelle personne a disparu sans qu'on sache comment. Mais voilà la vraie Bella que je dois honorer comme princesse, moi qui suis à son service depuis ses premiers ans. » Là-dessus, elle poussa un aboiement digne d'une meute affamée et se prosterna devant Bella. Le petit homme racine à ces mots sauta comme un furieux, jeta ses gants à terre et jura de se battre avec quiconque contesterait l'existence de sa femme et prétendrait qu'il fût une mandragore. De Chièvre objecta que pour se battre, il fallait d'abord prouver qu'il fût homme, chrétien et égal en rang à ses adversaires. Cornelius répondit qu'il avait un serviteur nommé Podours qui pouvait certifier la vérité de tout ce qu'on lui contestait et demanda la permission d'aller le chercher. On la lui accorda. Pendant cet intervalle, on apprit que les bavardages de Bracard, que le petit savant savait découvrir et déterrer les trésors cachés. De Chièvre, qui écoutait attentivement, dit au prince « Mais Dieu vous bénit en vous envoyant un ministre des Finances dans la personne de cette mandragore qui assurera votre gloire à venir. Sans compter vos fantaisies qu'il pourra satisfaire, il vous donnera dorénavant un moyen de vous ouvrir toutes les voies. Ce sera l'âme de l'État. Son génie saura allier les droits divins des peuples avec les intérêts des gouvernements. Vive l'archiduc et sa mandragore secrétaire d'État. » L'archiduc découvrit dans ce moment la sagacité de cet homme qui devait plus tard venir en aide dans bien des circonstances. Il fit à Chièvre un signe de tête plein de bonté et chercha le moyen de s'attacher le petit homme. Chièvre, par cette découverte, avait conquis sa faveur et sa confiance. L'archiduc salua très amicalement le petit lorsqu'il revint avec peau d'ours, portant les vêtements qui restaient de Golem Bella, ainsi que l'ébauche de sa statue. Le petit avait promis au pauvre garçon de lui rendre en une seule fois tout le reste de son trésor, à condition qu'il témoignerait qu'il n'y avait qu'une seule Bella, qu'elle avait quitté la maison après son mariage, sans motif, et n'avait laissé qu'un tas d'argile recouvert de son manteau. Il devait également jurer qu'il connaissait les parents de son maître, et qu'ils étaient regardés à Adelme comme bons chrétiens et des gens de vieille noblesse. Le pauvre Podours le mort, promit tout. Il entra et commença à défiler son faux témoignage. Mais comme Braca et Bella étaient mêlés dans l'affaire, la partie nouvelle de son corps, l'édition revue et corrigée de sa nature, voulait aussi répondre. Lui, homme, lui, pas homme, Bella mariée, Bella chassée de la maison. Enfin, il se coupa tellement dans ses réponses que les juges considérèrent son témoignage comme nul. Le petit homme était fou d'impatience. Il arracha au pauvre peau d'ours les vêtements et l'image de Bella Golem, le mit à la porte à coups de pied et jura qu'au lieu de lui rendre son trésor, il le distribuerait en aumône, qu'il le poursuivrait en vain jusqu'au dernier jour, et qu'il aurait beau, pour le recouvrer, servir tous les maîtres, trahir celui-ci pour celui-là afin de gagner quelques thalers, passer d'une armée à l'autre pour gagner une prime d'enrôlement, sa nouvelle nature dépenserait tout l'argent amassé d'une manière aussi honteuse, Et ainsi, au dernier jour, il serait aussi pauvre, aussi déguenillé, aussi désolé qu'en ce moment même. Après avoir lancé cette malédiction, le petit se tourna tristement vers la figure d'argile. De chèvre lui demanda ce que cela représentait. Il montra Bella en pleurant amèrement. Mais qui aurait reconnu dans ce cornichon, fiché au milieu d'une boule de terre, le nez fin et gracieusement mobile de Bella? Mais cette image suffisait à son amour. Et c'était surprenant de le voir embrasser ce morceau d'argile qu'il détrempait de ses pleurs. Pauvre Prométhée! Il regardait de temps en temps Bella d'un air si furieux que l'archiduc eut un moment peur qu'il ne prît l'éclat des yeux de sa bien-aimée pour l'inoculer à sa boule d'argile. Il craignait aussi que ses mains ne prissent racine dans la terre et que sa nature argentifère ne se perdit s'il redevenait végétal. Lui et Bella avaient deviné depuis longtemps que c'étaient les restes terrestres de Golem, et cela leur fit horreur. Bella ne se moqua point de ces efforts que faisait le petit pour modeler cette figure. Elle eut pitié de lui et demanda qu'on levât la séance. Car c'était elle qui avait causé tout son malheur en le tirant du sein de la terre. « Bon, aurait bien dû y rester !» s'écria maladroitement le petit, oubliant son système de dénégation. « Les taupes, les vers et les fourmis ne m'auraient pas fait tant de mal que vous tous !» De Chièvre déclara que cet aveu suffisait et quitta la chambre avec les autres seigneurs de la cour. Lorsqu'ils furent partis, l'archiduc frappa sur l'épaule de Cornelius et lui dit qu'il fallait réfléchir sur la distance énorme qui le séparait, lui, Racine, de Bella, princesse. Qu'il n'était pas possible qu'il fût le maître de Bella. En effet, la Bible dit à la femme que le mari soit ton seigneur et maître. Le peuple qui lui était soumis voudrait-il l'avoir obéir à une mandragore? Le prince ajouta qu'il serait très possible et très faisable qu'il l'épousât de la main gauche et qu'il habitât la même maison qu'elle avec le titre de feld-maréchal, mais à condition de ne partager ni son lit, ni sa table. En échange de cette distinction, il devait chercher, avec un zèle infatigable, tous les trésors cachés et les abandonner au prince en sa qualité de protecteur du pays bohémien. Le petit réfléchit un instant, puis s'écria « Bravo, tout cela me va !» Je sauterais au cou de votre Altesse si elle n'était pas si grande. J'aurais ma chambre à coucher à moi, où je pourrais dormir tranquillement. Je ne sais pas encore ce que c'est que dormir, car ma femme que j'ai perdue, si ce n'est pas la même que celle-ci, ne me laissait jamais de repos. Oh, cela m'a coûté une paire d'yeux tout neuf que j'avais à la nuque et avec lesquels j'aurais pu prévoir qu'il ne fallait les montrer à personne. Les repas en commun avec ma femme que j'ai perdue, si ce n'est pas la même que celle-ci, répéta-t-il, ne m'étaient pas non plus très agréables. J'avais beau crier et prenais toujours les meilleurs morceaux. Et si je ne me tenais pas tranquille, elle me frappait au visage avec des os brûlants et avec la cuillère à soupe. Bella ayant accepté le projet, l'archiduc envoya auprès du curé qui avait déjà marié une fois Cornelius, et le menaça de le condamner au pain et à l'eau pour avoir béni un mariage secret s'il le consentait à en faire un second, en public. Le pauvre curé se soumit, et l'union fut célébrée devant quelques intimes de l'archiduc. Union qui devait établir de graves rapports entre les personnages subalternes, c'est-à-dire Braca, Cornelius et le curé, comme entre les héros de notre histoire, l'archiduc et Bella. Cependant, au moment de prononcer les paroles de consentement, Bella se mit à pleurer. L'archiduc lui demanda la cause de ses larmes. Elle n'en put donner d'autre que le souvenir d'une petite chatte qu'elle avait noyée à cause de Cornelius, péché dont elle ne s'était pas confessée. Bon, comme ce n'était pas assez important pour suspendre la cérémonie, on passa outre et le mariage fut considéré comme conclu. Le soir même, le petit exprima sa reconnaissance à l'archiduc en mettant à jour un trésor caché dans une niche du château, consistant en chaînes d'or et pièces de monnaie, et qui était là depuis plus de 2 siècles. L'archiduc, lorsqu'il se trouva seul le soir avec Bella, se sentit tout troublé au souvenir de Golem Bella, qui s'était brisé en tombant à terre. De son côté, Bella ne retrouvait pas sa première familiarité avec le prince. Si bien qu'ils furent tous deux très contents de voir que leur lit n'était pas aussi rapproché qu'à Buick. L'archiduc fit un beau songe. Il crut voir les grandes Espagnes qui ne se découvraient devant personne, pas même devant le roi, prosternées à ses pieds, et lié par des chaînes d'or découvertes par le petit. Il lui sembla qu'avec cette chaîne, il pouvait se procurer des milliers de soldats et que partout où il se présenterait avec ses soldats, on lui rendrait hommage. Pendant ce temps, Cornelius, son voisin, trop agité pour dormir, se sentait toujours attiré par le morceau d'argile qui était maintenant le seul trésor de son cœur. L'excitation causée par son bonheur récent lui fit réussir son image. La terre se pétrissait sous ses doigts pour former une ressemblance tellement frappante qu'il préféra bientôt la femme qu'il venait de composer à celle qu'il avait perdue. De son côté, Bella reposait tranquillement lorsque, sur les minuits, un bruit de voix assez extraordinaire se fit entendre dans la fenêtre. Elle reconnut bientôt la langue de son peuple, dont les principaux chefs, ayant appris que l'archiduc leur avait donné la liberté de se montrer dans les Pays-Bas, étaient accourus auprès de leur princesse, qui venait d'être reconnue et s'empressait par une sérénade de lui donner l'assurance de leur fidélité et de leur amour à toute épreuve. Nous avons essayé de donner une traduction de ce qu'ils chantèrent, mais auparavant, nous allons décrire la danse qui précéda. Ils avaient trempé leurs mains et leurs vêtements dans une dissolution de phosphore, alors connue d'eux seuls, de sorte qu'ils brillaient au milieu d'un nuage de vapeur, et quand ils se touchaient ou se frottaient l'un contre l'autre, ils faisaient jaillir une lumière éclatante. Et ce fut au milieu de cet embrasement que commença leur chant. Les crimes sont expiés, nous échappons aux flammes et nous sommes tous réunis autour de notre princesse. Nous éveillons cette belle par nos douces chansons. La couronne résonne en se frappant contre le sceptre, qui gouverne immuablement, passant de père en fils, dans la maison souveraine selon la volonté divine. Le souffle de l'automne remplit nos yeux de larmes, notre cœur de saints attendrissements, au souvenir de notre patrie. Maintenant s'élèvent les vagues qui entraînent tout. L'instant créateur anime les champs, et les forêts verdoyantes s'élèvent du sein de la terre, et les enfants innombrables chantent les plaisirs de l'hiver. Viens, Bella, conduis les tiens, Nous te jurons fidélité, viens, et fuis avec nous en liberté, loin de ce château, bâti de pierres inanimées. Vois comme ces murs sont noirs, la tristesse y habite. Comme s'entrechoquent les armes des gardiens attentifs. Nous nous réjouissons, car nous vivons depuis ce matin. Nous suivons dans notre marche le vol des oiseaux. Bella appartenait à cette famille d'oiseaux qui, malgré le bon accueil que leur font les hommes dès qu'ils entendent dans les airs la voix de leurs frères, ne peuvent s'empêcher de les suivre. N'y a-t-il pas, sous les glaces du pôle, de pauvres habitants qui ne goûtent aucune des joies ni des inventions de notre zone et qui, lorsqu'ils aperçoivent un signe, se jettent à l'eau, s'imaginant qu'en le suivant, ils retrouveront leur patrie. Combien ce sentiment devait-il être encore plus fort chez Bella, où il se joignait au désir de régner? Elle était en Europe, comme cette fleur exotique qui ne s'ouvre que la nuit, parce que cet être est celle où brille le jour dans son pays. Sa passion et la pensée de ses malheurs se heurtaient sans ordre dans sa tête. Sans savoir pourquoi, elle ne pouvait se résoudre à rester. Elle aimait l'archiduc comme elle l'avait aimé autrefois, mais elle sentait que depuis qu'il en avait aimé une autre autant qu'elle, elle seule gardait et emportait son premier, son innocent amour. Elle vit que cette union avec le petit, sans altérer en aucune manière son innocence, lui montrait clairement que la pensée de son Charles n'était pas de l'épouser comme elle l'avait cru dans son orgueil de princesse. Que lui importait l'habileté de l'archiduc à lui procurer les plus grandes richesses? Elle ne connaissait que l'opulence de la pauvreté, qui possède tout parce qu'elle n'a besoin de rien. Elle ne connaissait que son peuple qui considérait un acte de dévouement pour elle comme une dette acquittée. Pendant ce combat intérieur, elle s'approcha du lit du prince et l'embrassa. S'il s'était éveillé, elle n'aurait pas pu se décider à le quitter. Dans son sommeil, il chercha à se débarrasser de ses embrassements parce que dans son rêve, il lui semblait que les chaînes d'or avec lesquelles il emmenait les peuples prisonniers s'enroulaient de plus en plus étroitement autour de ses jambes au point d'entraver sa marche. Mais Bella était trop agitée pour faire attention à ses mouvements. Elle se précipita par la fenêtre pour rejoindre les siens, sans réfléchir si elle sautait de haut. Le bonheur de son peuple voulut qu'elle ne se fît aucun mal. Sa chambre était au premier étage, et l'écolier qui, après avoir reconnu qu'elle était au château, était venu promener sous ses fenêtres sa douleur et son amour malheureux, l'a reçue dans ses bras. Les bohémiens la reconnurent, lui mirent la couronne sur la tête, le sceptre à la main, et sans faire de bruit, sans éveiller l'attention des gardiens, et en entraînant en même temps l'écolier, de peur qu'il ne les trahît, ils l'emmenèrent jusqu'aux portes de la ville où des chevaux rapides les attendaient et les éloignèrent bientôt de Gand par des sentiers cachés à toutes les recherches. Lorsque l'archiduc fut réveillé de ce rêve ambitieux, terminé d'une manière assez triste par l'éclat du jour qui semblait dire insolemment au rêve « Ah, vous n'êtes pas vrai, car vous ne pouvez pas rester quand j'arrive. » Il pensa que toutes ses inquiétudes n'étaient que des chimères, des élancements du cerveau. Mais qui donc remue notre cerveau? N'est-ce pas celui qui fait mouvoir, toujours également et selon des changements réguliers, les étoiles à la voûte du ciel? Le trésor de l'archiduc était intact devant son lit, et il se mit à jouer tout doucement, pour ne pas éveiller Bella. La foule affairée se pressait de plus en plus épaisse dans les rues, et Bella ne s'éveillait pas. Le prince l'appela, puis alla à son lit. Il ne l'y trouva pas. Il parcourut la maison avec inquiétude. Bella ne répondait point. Elle cueille peut-être un bouquet pour nous parer ce matin. Elle est peut-être à la messe qui remercie Dieu de son bonheur. L'heure suivante, se passant sans nouvelles de Bella, vint démentir ses suppositions. L'archiduc interrogea sans résultat les sentinelles. Il fit enfin appeler Bracca. La vieille pleurait la disparition de Bella. Tous ses beaux projets étaient partis avec elle. Quand un malheur arrive, les femmes sont ainsi faites. La gravité de l'événement ne retient pas la colère de leur langue, et leur tête se remplit tellement de leurs impressions qu'elles ne gardent plus aucune retenue. Aussi, au lieu de s'effrayer de la colère du prince, Bracca lui reprocha amèrement d'avoir, par son entêtement à l'unir avec Cornelius, poussé Bella à s'enfuir. L'archiduc ne répondit rien. Il vit bien qu'elle avait raison, que sa maladroite prudence lui avait fait perdre ce qu'il avait de plus cher, ce qui avait fait le bonheur de sa vie. Il se sentit aussitôt méprisable aux yeux de cette vieille que le petit l'était à ses propres yeux. Il dit à Bracca de se retirer, en la priant d'accepter une pension qu'elle dépenserait à sa cour, afin qu'il eût quelqu'un à côté de lui pour parler de sa Bella. Ses innombrables courriers parcoururent toute l'Allemagne et lui apportèrent pas de nouvelles. Son grand-père Maximilien, qui savait quelque chose de sa passion, avait fait faire des recherches partout. Enfin, et tandis que Bella était déjà bien loin avec les siens, il apprit qu'elle était accouchée en Bohême d'un prince auquel, en le baptisant, on avait donné le nom de Seyrarch, le nom retourné de son père Charles, et que l'écolier, enlevé par les bohémiens, était devenu, grâce à la faveur de Bella, un de leurs chefs, sous le nom de Sleipner. L'attente de ces nouvelles avait causé le retard incompréhensible que le prince mettait à quitter les Pays-Bas pour l'Espagne, où son grand-père venait de mourir, et où le peu de ménagement de Jiménez pouvait allumer une guerre civile. Muni de ses renseignements sur Isabelle, il voulait la rejoindre, mais en quel lieu? Et comment, d'un autre côté, abandonner les rêves de sa jeunesse, près de se réaliser? Sa couronne, qu'il n'avait jusque-là regardée que comme un jeu, était devenue pour lui un fardeau. Les cérémonies d'avènement, qui ne lui paraissaient autrefois que des divertissements agréables, lui semblaient maintenant du temps perdu. C'est ainsi qu'une horloge vient d'un timbre inopportun interrompre une suite de tranquilles et douces pensées. Si nous ne nous trompons pas, d'étranges caprices contre lesquels vinrent échouer ses plus importantes entreprises s'expliquent par cette première imprudence. L'indifférence avec laquelle il prit d'abord le gouvernement, laissant perdre les Espagnes par les infâmes malversations de Chièvre et des siens, les plaisirs matériels dans lesquels il cherchait à s'oublier et où il épuisait prématurément ses forces, tous actes d'une âme désappointée à laquelle il manquait quelque chose. Il lui fallait le temps et de grands événements, comme la conquête de la Nouvelle-Espagne, son avènement à l'Empire à un adversaire infatigable, pour l'empêcher de tomber dans un profond dégoût de la royauté. Enfin, il lui fallait Mandragore pour mettre en action toute son activité. Et que faisait pendant ce temps le rival du prince? Après avoir cherché de tout son pouvoir, mais sans succès, sa femme perdue pour la seconde fois, il avait, plutôt que l'archiduc, trouvé une consolation. Il s'était remis avec la plus grande activité à l'image de la belle Bella. Et le prince, plongé dans une tendresse inquiète, entra un matin dans son appartement. Il salua cette statue en poussant un cri d'admiration, et sans écouter les cris et les réclamations de Cornelius, il l'emporta dans sa chambre. Tandis qu'il l'ornait de fleurs et s'agenouillait devant elle, les domestiques du château entendirent un grand bruit dans la chambre du petit. On avait d'abord entendu les cris de Cornelius, puis des voix devenant de plus en plus nombreuses. Lorsque les gardes enfoncèrent la porte, on entendit comme un coup de foudre, une odeur de soufre se répandit dans la chambre. Le petit homme Racine gisait par terre sans vie et tout déchiqueté. On l'enterra secrètement, et Charles se regarda comme débarrassé de lui. Le monde crut qu'il avait complètement disparu. La vérité est qu'il s'était tellement mis en colère qu'il en était devenu démon, et l'empereur vit bien qu'on ne pouvait pas en être débarrassé si facilement. En vain, il changea de demeure, de vêtements. En vain, il se réfugia jusque sous le soleil d'Afrique. Lorsqu'un mauvais désir venait l'assiéger, au moment où il s'en croyait débarrassé pour toujours, la mandragore apparaissait, tantôt sous la figure d'un grillon, qui, caché derrière le poil, lui indiquait l'occasion et le moyen d'avoir de l'argent pour accomplir son mauvais dessein, tantôt sous la forme d'une araignée, qui descendait du plafond sur son pupitre, ou d'un crapaud qui venait au-devant de lui lorsqu'il entrait au jardin. D'autres fois, elle venait bourdonnant autour de lui comme un hanneton, et le matin et le soir, elle volait auprès de lui en poussant des cris sauvages. Charles l'écoutait et trop souvent obéit à sa voix. Ce génie qui lui procurait de l'argent lui facilita bien les entreprises, mais cela ne devait que diminuer la durée de son règne, et il devait plus tard, par une sainte vie passée dans la prière et dans le repentir, expier chacun de ses mauvais désirs. Longtemps après, il passait à Gand, assailli par le souvenir de son premier amour. Amour si malheureux, il résolut d'assister au coucher de ce soleil qui avait été Charles Quint. Il abdiqua en faveur de son fils Philippe et prit congé des envoyés de toute nation qui étaient à sa cour. Puis il vécut dans la plus profonde solitude jusqu'à son retour en Espagne. Le jour anniversaire de sa naissance, il prit possession du monastère de Hieronymit, fondé par lui à Saint-Just en Espagne. C'était justement le jour où était venue au monde la mandragore, qui avait été le tourment de toute sa vie. Il naissait pour le ciel le même jour qu'il était né pour la terre. Son vœu le plus ardent fut exaucé, et sa discipline sanglante, qu'on a gardée comme une relique, témoigne combien il lui fut difficile de se détacher de cette pensée d'amour qu'il avait occupée toute sa vie. Et nous, dont les aïeux ont tant souffert de son système politique, de l'avarice que lui inspirait la mandragore, des divisions excitées par lui en Allemagne, alors sans unité et sans patriotisme, malgré tout cela, nous nous sentons désarmés au récit des souffrances que lui a coûté ce premier amour. Cette expiation nous réconcilie avec sa vie et nous trouvons qu'il aurait fallu être un saint pour mieux faire. Il fallait qu'il se sentît bien préparé à être jugé lorsque voulant éprouver si son cœur était prêt pour le grand voyage, toujours effrayant même pour un vieillard qui a vécu longtemps, il se fit construire, sur ses propres plans, un magnifique tombeau, dans l'église du couvent, en haut d'une galerie, ornée des statues de ses prédécesseurs, et où devait être placé son cercueil. Il se sentait bien préparé lorsqu'il se fit mettre vivant dans ce cercueil, au milieu des glas, des chants funèbres, et entouré de la flamme lugubre des cierges. Il se fit porter dans son tombeau, et là, à travers le toit de l'église, il aperçut Bella qui venait au-devant de lui dans les champs des pensées éternelles, où les erreurs des hommes les quittent et tombent en poussière avec leur enveloppe terrestre. Il alla vers elle sur un signe de sa main et se trouva bientôt au milieu d'une clarté lumineuse où Isabelle lui montrait le chemin du ciel. Il demanda aux assistants si le jour était déjà levé. L'archevêque qui le veillait répondit qu'il faisait nuit. Quelques instants après, il recommanda son âme à Dieu et mourut. Demandons à notre cœur comment nous voudrions mourir. N'est-ce pas comme Charles, la femme aimée de notre jeunesse, se plaçant comme un ange entre nous et le soleil, pour nous garantir de son éclat trop éblouissant? Ces funérailles de Charles, ne les considérons pas du reste comme un drame lugubre. Cette pensée réalisée par le maître du monde entier travaille souvent les cœurs qui ont mené une vie agitée. Et s'ils ne peuvent pas tous faire comme Charles Quint, ils aiment au moins à régler leurs propres funérailles. Notre 20 siècle néglige les cérémonies funèbres. Chez nos pieux aïeux, on donnait souvent parmi les cadeaux de noces un linceul à la fiancée. Et qui oserait traiter cela d'étrangeté? C'était une marque de cette unité de pensée qui se reproduit à nos yeux dans toute leur histoire, et surtout dans les monuments de leur haute piété que nous ont conservés les vieilles églises allemandes. Quelle unité, quelle entente de toutes les proportions! Tout a de profonds fondements dans la terre, et tout s'élève vers le ciel avec noblesse et beauté. L'église se dresse vers le ciel, les fleurs et les feuilles de sculpture semblent se joindre pour prier. Tout se tourne vers la croix, qui marque l'extrémité de l'édifice, représentant le sceau de la vie divine chez l'homme. Elle seule brille des couleurs de l'or, et aucun ornement dans l'œuvre de l'architecte n'ose s'enrichir de l'éclat de ce métal. Ce ne sont pas seulement les funérailles, c'est aussi la vie de Charles Quint que la postérité a jugée longuement et sévèrement, quoique les contemporains seuls puissent bien apprécier un conquérant à la fin de sa carrière. Mais les tribunaux des morts, qui étaient une des grandes institutions de l'Égypte ancienne, ne se retrouvent malheureusement plus dans notre Europe. Nous les voyons encore chez les Abyssiniens. Là encore, les descendants d'Isabelle sont placés le lendemain de leur mort sur un trône devant l'entrée de la pyramide qui leur servira de sépulcre, et chacun doit dire son opinion sur le défunt. Bella avait aussi passé devant ce tribunal. Et maintenant encore, les Abyssiniens conservent la mémoire de ce jugement qui leur sert souvent de conduite dans leur vie. Ils montrent encore sa statue près des sources du Nil. Elle est représentée, les tenant toutes réunies en un crible, sans doute pour indiquer qu'elle a pu réunir les troupes éparses des Abyssiniens ou Bohémiens, mais qu'elle n'a jamais pu parvenir à empêcher leurs dissensions intestines. Nous devons ces renseignements au célèbre voyageur Taurinius, dont nous allons rapporter les propres paroles. Isabelle, la célèbre reine, manda son fils Eirach, qu'elle avait eu de Charles, selon la prédiction d'Adrien, son capitaine Stirkner, qu'elle avait trouvé simple écolier à Gand, ainsi que tous les seigneurs et chefs du peuple, à l'entrée de la grande pyramide près des sources du Nil, où elle s'était fait un tombeau. C'était le 20 août 1558, le jour même où son bien-aimé Charles assistait vivant, les yeux ouverts, à ses propres funérailles. Elle déclara, en prenant congé de tous, en montrant le ciel à l'inconsolable Sleipner et en pressant son fils sur son cœur, elle déclara qu'elle se sentait trop malade et trop infirme pour conserver plus longtemps le pouvoir et que maintenant qu'elle cessait de régner et qu'elle allait en même temps quitter le monde, son plus vif désir, sa dernière prière, était qu'on n'attendît pas qu'elle fût réellement morte pour la soumettre à la sainte et ancienne coutume du jugement des morts, mais que pendant qu'elle serait étendue dans son cercueil, elle désirerait que chacun vînt donner son avis sur elle et sur sa conduite, en jurant de dire la vérité. Ni les supplications, ni les pleurs ne purent la détourner de cette résolution. Alors on prêta serment. La reine, au milieu des gémissements de tout son peuple, s'étendit dans sa bière, et chacun, selon son rang, comme c'était la coutume, passa devant elle et fit insérer au livre royal son opinion bien méditée et rédigée d'une manière intelligible. Le prêtre qui m'a donné tous ces détails me lut comment les choses s'étaient passées et comment elle mourut paisiblement pendant son jugement. C'était sur un vieux parchemin, j'ai essayé de le traduire en notre langue. En plusieurs endroits, la copia verborum m'a manqué. Aussi dois-je le porter au professeur Hussen, qui me le renverra et me le corrigera. Pendant le jugement, elle tomba dans une douce contemplation. À travers les brouillards qui couvraient encore ce pays créé par elle, elle entrevit les jardins enchantés de son peuple. Les enfants jouaient en toute sécurité. Les fontaines coulaient là où autrefois le crocodile venait se chauffer au soleil sur un sable brûlant. Des oiseaux rouges et bleus chantaient où autrefois on n'entendait que le sifflement des serpents. Plus loin, elle vit la verte prairie émaillée de fleurs. Les agneaux se promenaient lentement à travers les touffes d'herbe, en faisant résonner leurs clochettes, là où autrefois la mort saisissait tout être vivant qui s'aventurait sur les marais sans fond. Elle voyait couler le fleuve des fleuves, qui seul polit comme une épée le métal vierge du monde sublunaire. On entendait le bruit cadencé des rames, là où aux eaux basses les poissons osaient à peine nager. Mais le plus beau coup d'œil était sur l'autre rive. Pendant qu'elle se félicitait d'avoir laissé à son peuple des matériaux tout préparés pour bâtir un palais superbe, elle vit briller sur l'autre bord, au reflet du soleil couchant, des châteaux et des églises d'un travail merveilleux. Étonnée, elle s'approcha du fleuve pour regarder sur la rive opposée et s'assurer si elle n'avait pas été le jouet d'une illusion. À ce moment, elle tomba dans le fleuve et disparut. Un pieux témoin de sa mort a essayé de rendre dans ce tableau la béatitude qui illumina ces derniers moments.